France Culture.
Le département de l'Aude est encore sous le choc. Après plusieurs incendies au début de l'été, un feu d'une rare intensité a dévasté le massif des Corbières le 5 août, brûlant près de 17 000 hectares de vignes, de forêts et de garrigues. Une habitante est morte, des centaines d'exploitations agricoles et entreprises ont été touchées et se demandent si elles s'en remettront. La région veut lancer un plan Occitanie Résilience, mais dans l'immédiat, Thibaut Marais, vigneron à Fonjoncouze, est surtout abattu. Il s'est confié à Catherine Pétillon.
Donc là, on est sur des parcelles assez jeunes. Morastel, donc là, on a Morastel et derrière le Tempranillo. Et bon, bah, il n'y a plus de vert. Sur le Tempranillo, on voit quelques repousses là, mais bon, c'est pas toute la parcelle. Donc, quand je vois la tête des pieds, ils sont quand même très très noirs. Les feuilles sont marron foncé, et quand c'est marron foncé en général, c'est qu'il a fait beaucoup trop chaud.
Je suis Thibaut Marais, je suis vigneron donc au domaine de Couchaloup. C'est un domaine que j'ai créé en 2017. J'étais sur 12 hectares de vignes et 3 hectares d'oliviers. Et avec les problèmes liés à la sécheresse depuis 3 ans maintenant, j'avais arraché 6 hectares cette année. Et donc il me restait 6 hectares et qui ont maintenant tout brûlé. Et mes oliviers pareil, tout brûlé.
Comment ça s'est passé pour vous, le moment de l'incendie? Vous étiez là?
Ouais, donc moi j'étais là, puisqu'on finissait de clôturer. On savait qu'il y avait le feu à Ribaute, mais pour nous, Ribaute, c'est loin, les feux, on est habitués. On n'était pas plus alarmés que ça. Dans le doute, moi je suis parti faire le tour de la montagne, et en fait, non, les flammes étaient vraiment de l'autre côté, quoi. Le vent a tourné à 90 degrés, et là, on n'a pas compris. On est parti à 22h30, et à 1h du matin, il y avait déjà 11 000 hectares de brûlés. On est dans les 2000 hectares heure, c'est rapide, personne n'a pu comprendre ce qui se passait, quoi. Et on est rentré 2 jours après.
Et là, vous êtes allé voir vos hectares.
Ouais, c'est le premier truc qu'on a fait, ouais. Bon, là, on a vu qu'il n'y avait pas d'espoir. Moi, j'étais vraiment sur des vignes qui étaient un peu vieilles, plus de 50 ans. Donc, c'est des vignes qui ont beaucoup de bois mort. Et la chaleur était telle sur cette partie-là du feu qu'en fait, il y en avait même qui ont brûlé sur place. Il n'y avait plus que des tas de cendres. Donc voilà, je savais qu'il n'y avait plus rien à récupérer. Contrairement à d'autres, où il y a eu des vallées un peu épargnées, où ils ont pu se dire, la question c'était est-ce qu'on vendange ou pas. Moi, c'était non seulement je vendange pas, mais en plus, va falloir arracher, quoi. Tout est brûlé, mon matériel, moi il n'a pas brûlé, mais par contre il a pris la chaleur, donc tous les plastiques ont fondu sur mon matériel, donc il est inutilisable.
Ça veut dire que là, les conséquences, elles ne sont pas... que pour à court terme là, pour vous.
Ah, pour moi, les conséquences, elles sont à long terme. Elles sont dans le sens où j'ai perdu complètement mon outil de production. J'ai plus de vignes. Les oliviers, on va essayer de les sauver, mais c'est pas dit. Il y a une équipe de 15 personnes qui sont venues m'aider justement ce week-end pour leur apporter beaucoup d'eau, en espérant qu'ils repartent. Au moins, je pourrais me dire que pour les oliviers, j'aurais fait le maximum pour les sauver. Mais voilà, c'est travailler sans garantie de succès derrière.
Il y a eu de la solidarité. Comment ça se passe là, justement, l'après, là, vous en êtes où?
On est toujours un peu dans la sidération. On a été sidérés quand même pas mal de temps. En même temps, on a quand même énormément de travail, parce que tous les arbres qui ont brûlé, ils sont couchés sur les chemins, dans les parcelles, un peu partout. Il y a toutes les clôtures électriques qui ont fondu, donc il faut aussi enlever ça. Enfin, on a énormément de choses à faire. Préparer l'arrachage, puisqu'il va falloir arracher les vignes. Et donc, en fait, on ne sait juste pas par où commencer. Et donc c'est vrai qu'on discute avec beaucoup à se dire, mais en fait on a perdu toute motivation. On sait pas par quel bout prendre, et voilà. Et c'est un peu, ouais, on cherche. Ouais. Trouver par quoi attaquer, et qu'est-ce qu'on fait derrière. C'est là où rentrent en compte les assurances. Moi, mon principal problème, c'est que j'ai un plafond d'indemnisation globale qui fait que je peux replanter que 2 hectares sur les 6. Donc ça sera jamais suffisant pour en vivre. Et les 2 ans de sécheresse et les années Covid ont fait qu'en termes de commerce et en termes de trésorerie, on n'a plus rien. On est beaucoup à avoir les caisses à sec. Moi, bon, l'après, il est assez réfléchi par rapport à ça, quoi.
C'est-à-dire
que c'est l'arrêt de l'activité. On ne peut même pas se dire on part, parce qu'il y a encore des emprunts sur toutes ces terres. Donc il n'y a personne qui achètera. Il faut être lucide. Donc voilà, donc un peu pris au piège. Après aussi, bon, on aime bien la région, donc moi ça me va de rester, c'est pas tellement le souci, quoi. Mais on est limité dans les choix, et voilà, il faut rester lucide par rapport à ça.
Et pour autant, donc là, vous avez ces terres que vous allez garder?
Bah voilà, il y aura un micro-domaine Couchaloup qui va continuer à vivre, je pense, sur 1 hectare ou 2, mais sur du temps libre et pour continuer, parce que c'était une passion quand même, hein. Ce que j'aime bien, moi, aller au contact des gens et faire mes marchés. Je fais une dizaine de marchés un peu partout en France et en Belgique et continuer ça sur mes week-ends. Donc voilà, ça sera à négocier avec mon futur employeur de pouvoir me laisser partir le vendredi midi et de me réembaucher le lundi midi pour pouvoir faire mes marchés. Mais je veux garder ce côté-là parce que c'est un projet de vie et j'ai pas envie non plus de tout laisser tomber. Et puis le paysage des Corbières, c'est quand même une région magnifique, malgré nos difficultés climatiques. Et voilà, j'ai aussi envie de continuer à participer à faire que ces paysages y soient magnifiques de nouveau, que ça reprenne et tout. Ça sera plus mon activité principale, mais je veux quand même continuer à être acteur de ça.
Comment le territoire s'organise-t-il pour soutenir les sinistrés ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.